vous invite à trouver l'évangile de Jean et chapitre 20. Je vous annonce que le Christ, le Sauveur envoyé par Dieu, est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort et vous pouvez être nés de nouveau puisqu'il a vaincu la mort. Par sa résurrection, une vie nouvelle, une vie différente, une vie éternelle et la victoire par rapport à la mort peut être à vous aussi. Il était un homme fort. Au moins, il l'avait été, ce vieux avec qui j'étais ce jour-là. Son corps, pourtant, avait été maintenant ravagé. Et il était une ombre de ce qu'il avait été. Il était sans doute à des jours, peut-être des semaines de la mort. En fait, je ne savais pas en ce moment-là, mais il était à 3 semaines de son décès. Il avait fait de grandes choses, il avait fait de bonnes choses dans sa vie, mais tout cela n'avait aucune importance. Maintenant, il était face à le défi des défis. Parce que la mort enlève tout, dérobe tout. Il n'y avait rien de sa vie, de sa force, de ses possessions. Il n'aurait rien. Dépourvu. Dénudé de ce qu'il avait été, il allait affronter l'éternité. Et en ce moment, il m'a dit que la seule chose qui lui comptait était Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Il m'a dit, rien que ça, rien que ça. Nous allons tous passer par là. La mort est l'annonciateur d'une seconde mort qui ne finit jamais, dit la Bible. Mais gloire à Dieu, j'ai une bonne nouvelle. Pas besoin pour vous ou pour moi de subir cette seconde mort dans les temps de feu qui n'en finit jamais. Car Dieu a envoyé un sauveur qui l'a subi, qui l'a vaincu et qui vous annonce cette bonne nouvelle du pardon aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons contempler un moment la résurrection, les événements, au moins certains, parce que Jésus a apparu à ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection, leur parlant du royaume de Dieu. Pourquoi 40 jours ? Parce que 40 est toujours dans la Bible le temps de l'épreuve. 40 jours dans le désert pour Israël, 40 jours dans le désert pour Jésus, 40 jours après sa résurrection pour prouver qu'il est ressuscité. Et avant de commencer en lisant notre texte, je vous rappelle que quand on dit que Jésus est ressuscité, nous ne parlons pas d'une expérience comme celle de Lazare. Que Jésus a ressuscité, mais je voudrais plutôt dire que Jésus a revivifié. Parce que les deux hommes n'ont pas eu la même expérience. Lazare est revenu à une vie mortelle pour ensuite mourir. Jésus est revenu à une vie immortelle. Il ne peut plus mourir. Il a vaincu la mort. Que Lazare n'a pas vaincu. Et nous voulons contempler notre Seigneur ressuscité aujourd'hui. Ok, nous lisons notre passage. Et il s'agit des 18 premiers versets de Jean 20. Voilà ce que Jean nous dit. Et rappelez-vous que chaque auteur d'évangile parle à un auditoire différent et il raconte certains détails différents de l'autre. Les choses concordent. Ils ne sont pas en contradiction, mais donc le raconte d'un certain point de vue à cause du message qu'il veut passer. Le premier jour de la semaine, donc c'est dimanche, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin. Vous avez entendu chez Matthieu que Marie-Madeleine n'était pas seule. Vous allez voir que Jean nous donne l'indice qu'elle n'est pas seule, mais il veut fixer l'attention sur elle parce qu'elle est au centre de ce qui va suivre. Okay? Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. La lumière n'a pas encore vraiment pointé. Et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Rappelez-vous qu'il s'agit d'une cave, okay, pas d'un trou dans la terre, mais d'une cave dans laquelle on entre et dans un endroit de la cave un peu plus bas, il faut descendre un peu, il y a donc une place où est couché le cadavre du défunt. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Nous ne savons. Elle était avec d'autres femmes. D'accord. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux. L'autre disciple, c'est l'auteur de cet évangile, c'est Jean lui-même. Mais il ne donne jamais son nom dans son évangile. Quand il se réfère à lui, il s'intitule le disciple que Jésus a aimé. D'accord? Donc, Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il était plus jeune que Pierre. Et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier, donc Jean, au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Il crut. Le premier homme dans le monde à croire que Jésus était ressuscité. Car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. En d'autres termes, s'ils avaient compris l'écriture, ils auraient cru déjà, avant d'avoir vu le tombeau vide. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Maintenant, le récit revient à Marie. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, ou Monsieur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, ou plus littéralement, cesse de s'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Deux parties dans ce serment. D'abord, la première personne à croire que Jésus était ressuscité, Marie, est la première personne à voir Jésus ressuscité, Jean, est la première personne à voir Jésus ressuscité, Marie. D'abord, la première personne à croire dans le fait que Jésus était ressuscité. Je voudrais vous parler de Jean un moment. Vous voyez que Jean et Pierre sont convoqués au tombeau par la voix de l'incrédulité. Parce que c'est Marie qui vient, mais non pas parce qu'elle croit que Jésus soit ressuscité, tout le contraire. Mettons en place un peu les événements. Probablement, Marie et les autres femmes, il y en avait plusieurs, selon Luc, sont arrivées à l'aube pendant qu'il faisait toujours noir. Et soit Marie les a devancées un peu, soit on arrive au tombeau, elle va le premier vers le tombeau, mais en tout cas, elle voit d'abord avec les autres que la pierre est roulée et elle aperçoit sans doute que le tombeau est vide, mais sans regarder plus loin, sans regarder de détails. Elle part immédiatement, rapidement, pour avertir les disciples, Pierre et Jean. Alors que, selon les autres évangiles, les autres femmes restent. Et regardant au tombeau, elles sont confrontées par 12 anges. 2 anges qui leur disent que le Christ est ressuscité et leur commissionnent d'aller dire qu'il est ressuscité aux disciples. Mais comprenez bien que Marie-Madeleine n'a pas entendu ces anges. Elle est déjà partie avertir les disciples. Elle arrive donc vers Pierre et vers Jean. Et le texte nous dit au verset 2 qu'elle leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur, non pas qu'il est ressuscité, c'est pourquoi je dis qu'elle n'a pas entendu les anges, on a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Elle est, ce jour-là, vous pouvez l'imaginer, dans le désarroi, dans la confusion, dans la panique et dans la peur la plus totale. Lisez les versets 3 et 4 et 5 avec moi, et nous allons voir comment Jean est amené à la foi que Christ est ressuscité. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau, ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, arriva le premier au tombeau. Ce sont des détails qui nous montrent qu'il s'agit bel et bien d'un récit de témoin oculaire. Parce que personne ne raconte jamais des détails comme ça, sauf s'il était là. Le fait que moi je cours plus vite que toi et que j'arrive le premier, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Sauf pour la personne qui l'a vécu, s'il a vécu dans un moment de drame. Quand on vit une drame, tous les détails restent imprimés dans l'esprit et revêtent une importance. Et Jean doit raconter qu'il a devancé Pierre, qu'il a vu d'abord, mais qui n'est pas entré typiquement des deux personnalités, parce que Jean est plus en retrait, Pierre c'est celui qui s'avance sans réfléchir, toujours dans l'évangile. Et nous voyons donc que Pierre le rattrape et entre dans le tombeau. Mais ce que vous devez constater, et si vous pouvez avoir sous les yeux ce passage, c'est que notre traduction n'est pas très bonne. Mais le passage dit 3 fois dans les versets 5 à 7 le mot poser ou reposer ou giser en parlant des vêtements, des vêtements funèbres de Jésus. Je vais vous lire dans une autre version pour que vous voyez, parce que dans notre version, nous avons tout simplement que les vêtements étaient là. Et c'est un mot qui n'est pas été, mais un mot qui signifie de manière très précise se poser là ou poser là. La Nouvelle Bible Seconde traduit, c'est la dernière traduction de la Bible en français qui peut-être plus exacte, au moins ici, il se baisse, Jean, voit les bandelettes qui gisent là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là. Et le linge qui était sur la tête de Jésus, ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part, ou il était dans une forme arrondie à part, dans un autre lieu. Donc, vous pouvez comprendre, quand je lis cette version, que apparemment les vêtements pour Jean et la manière dont ils étaient disposés avaient une gigantesque importance. Et je veux vous faire comprendre pourquoi. Nous savons, d'après le récit, que Jésus a été mis dans un linceul, dans un peut-être des bandelettes qui étaient... On avait entouré son corps avec ses bandelettes, avec des aromates. On nous dit qu'il y avait 50 kilos d'aromates utilisés pour embaumer, commencer à embaumer son corps. Et avec un linge séparé, sa tête a été enroulée. La première chose que Jean et Pierre doivent penser, peut-être, s'ils réfléchissent, s'ils arrivent à réfléchir, c'est que ce corps n'a pas été volé. Parce que les vêtements sont là, n'est-ce pas? Aucun voleur ne prendra le soin de dérouler les linges funèbres d'un corps, parce que c'est, d'une part, ces linges valent beaucoup d'argent, et les aromates valent beaucoup d'argent. Ils prendraient plutôt le corps. Il n'y a aucune logique, aucune raison pour un voleur de dérober ainsi le corps. Mais ça n'a pratiquement pas d'importance, parce que ce n'est pas ça qui frappe Jean et Pierre. Ce qui les frappe, ce n'est pas le fait que les vêtements soient là, c'est la manière dont les vêtements sont là. Et vous allez voir que Jean croit à l'instant que Christ est ressuscité, non pas parce qu'il voit un tombeau vide. Ce n'est pas à cause de ce qui n'est pas là qu'il croit. C'est à cause de ce qui n'est pas là et ce qui est là. Le corps n'est pas là, mais les vêtements sont là, comme si Jésus a passé à travers. Parce que cette description, c'est un effort de dire que les vêtements sont encore roulés sur eux-mêmes et repliés, affaissés, sans doute à cause du poids des aromates, mais encore dans la forme exacte qu'ils avaient lorsqu'on a roulé le corps de Jésus. Les vêtements ne sont pas simplement là, ou déroulés, ou dépliés, mais encore pliés et roulés. Et c'est lorsque Jean entre et il voit ce qu'il n'a pas vu au début. Si vous voyez, si vous voulez lire le passage avec moi encore, il dit... Au verset 6, Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui gisaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, ne gisant pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part, où le mot signifie rond. C'est-à-dire que vous avez le linge du corps, vous avez un espace pour le nuque, et à part, vous avez ces bandelettes qui étaient autour du visage et de la tête, qui n'avaient pas autant peut-être d'aromates, qui ne se sont pas affaissées. Et vous avez la forme d'une tête devant vous, mais il n'y a plus de tête dedans. C'est ça que le texte est en train de nous dire. C'est pour ça que Jean prend tant de peine à expliquer les vêtements et à dire ceci au verset 8. Alors l'autre disciple, lui-même Jean, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit, c'est-à-dire il vit ce qu'il n'a pas vu au début, parce qu'au début on nous dit qu'il a vu les bandelettes du corps, mais il vit cette partie aussi de la tête, et voyant tout cela, il pige. Il comprend. Les faits devant ses yeux impose sur lui une conclusion fantastique. Il est impossible que ce soit autre chose que le passage du corps de Jésus à travers les vêtements, tout comme le corps de Jésus est passé à travers le tombeau avant que la pierre soit enlevée. Et tout comme le corps de Jésus va passer à travers les murs de la chambre ce même soir pour paraître subitement dans une chambre fermée à clé avec les disciples. Même phénomène, trois fois. Il passe à travers ses vêtements, il passe à travers la pierre du tombeau, il passe à travers les murs. Nous pouvons aussi comprendre un autre détail qui est curieux. Pourquoi est-ce que les anges apparaissent aux femmes pour leur dire Jésus est ressuscité? Mais lorsque les deux principaux apôtres de Jésus-Christ, Pierre et Jean, viennent, les anges ne sont pas là. Il y a une raison très simple. C'est que Dieu ne voulait pas, quand les femmes viennent, elles ne constatent pas la disposition des vêtements parce que leur attention est capturée par les anges éclatants et leur message. Mais bien sûr, c'est complètement logique. Tu arrives, il y a des anges, tu ne vas pas voir les détails des vêtements. Alors, les anges leur avertissent que Jésus est ressuscité. Mais Dieu ne veut pas que les apôtres croient de cette manière. Il veut que Jean puisse croire simplement par des faits. Par des faits. Que nous tous, nous n'avons pas d'anges, que nous tous pouvons avoir. Et donc, il n'y a pas d'ange et il n'y a pas de distraction. Et il ne voit que les vêtements et il constate un phénomène miraculeux. C'est pour ça que les anges ne sont pas présents. Marie va venir dans quelques moments, qui pleure, hein? Elle va venir. Elle aussi va aller regarder dedans. Elle ne va pas constater les vêtements non plus parce que l'ange va l'aborder et capturer son attention. C'est vraiment intéressant comment le Seigneur a fait en sorte que les choses arrivent de la manière. Donc, ce que je veux vous dire pour finir cette partie sur Jean, c'est que la première personne à croire que Jésus est ressuscité croit comme vous et moi, sans avoir vu le Christ ressuscité. D'accord? Mais il croit peut-être un peu différemment que nous parce qu'il voit une preuve incontournable, indéniable. Sauf que Pierre, qui le voit aussi, ne croit pas encore. Si vous lisez le texte avec moi, le texte nous dit au sujet de Jean, verset 8, « Il, au singulier, vit et il, au singulier, crut. Car il, pluriel, n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. » Et d'ailleurs, en Luc 24, 12, Luc nous dit que quand Pierre est parti de ce moment-là, quand il est parti, il s'émerveillait, il se demandait qu'est-ce qui s'est passé. Le mot nous signifie être dans un état d'étonnement et de questionnement. Donc, nous voyons que Jean est celui qui croit le premier et il croit sans avoir vu donc le Christ ressuscité. Il est bon de la part du Seigneur de nous avoir laissé un signe. Et je crois qu'il a fait comme pour cette raison. Il nous a laissé un signe palpable pour dire au monde qu'il était ressuscité d'entre les morts. Ok. La première personne à croire en Jésus est maintenant la première personne à voir le Christ ressuscité. Est-ce que vous croyez comme Jean? Marie revient au tombeau. Rappelez-vous qu'elle s'est rendue chez Pierre et Jean, mais les deux hommes ont couru. Donc elle a dû les suivre de loin. Et je crois, en lisant tous les détails de tous les quatre récits, que probablement Jean et Pierre ont vu le tombeau, sont repartis avant que Marie n'arrive de nouveau au tombeau, il me semble. En tout cas, il n'y a aucun contact entre les trois. On nous dit tout simplement dans ce récit comprimé que les disciples s'en retournèrent chez eux, Pierre et Jean. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. La manière dont le récit comprimé nous donne l'impression qu'elle se tient là alors qu'ils partent, mais si vous comprenez les récits bibliques et les récits d'Antiquité, tout est tellement comprimé que ce n'est pas nécessairement le cas. Il peut y avoir de grands espaces de temps. En tout cas, Marie se tient là, près du tombeau, et elle pleure. Vous pouvez imaginer la scène. Elle a, d'après ce que nous savons d'elle, un attachement particulièrement fort au Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous que c'est Marie-Madeleine de qui Jésus a exorcisé sept démons. C'est de Jésus qu'elle a reçu le pardon et le salut. C'est de lui qu'elle a été sortie du fin fond des ténèbres sataniques. Imaginez la vie d'une femme qui est profondément prisonnière des ténèbres de ce monde de mal et qui en est sortie par un mot du Christ. Sa vie a été changée et elle est extrêmement attachée au Seigneur. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette femme? Pour elle, Jésus est son salut, Jésus-Christ est sa vie, son libérateur, son tout. Avec cette foi en lui, mêlée à ses doutes en ce moment, ne pensons pas qu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'elle peut faire sinon traîner là et pleurer? Parce que ce n'est pas un sauveur qu'elle peut lâcher. Ce n'est pas une relation qui peut être brisée. En elle-même, elle se dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et elle traîne là et elle sanglote. Heureusement, elle bouge après un moment parce que la foi ne peut pas rester dans le désespoir. La foi nous pousse à agir, n'est-ce pas? Et le texte nous dit qu'elle se baisse pour regarder dans le tombeau et vit les deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Comme je vous ai dit, voyant les anges, elle ne remarque pas en détail la situation des vêtements de Jésus. En tout cas, elle est tellement préoccupée, je dirais obsédée par une seule pensée. On a emporté le corps de mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. C'est la seule chose qu'il. Donc nous voyons, comme elle pleurait et elle se baissait pour regarder dans le tombeau, elle vit ces deux anges qui lui dirent, femme, verset 13, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Ce sont les mêmes mots, presque exactement, qu'elle a raconté à Pierre et Jean, n'est-ce pas? On a enlevé le Seigneur, elle a dit, et nous ne savons pas où on l'a mis. C'est plus intime maintenant. Elle dit aux anges, on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. Ce qui est frappant, c'est que même la vision des anges, qui arrive rarement dans l'histoire, un être humain, et il doit y avoir dans ce lieu cette atmosphère de surnaturel que les anges apportent lorsqu'ils arrivent en contact avec des humains. Mais pourtant, elle n'est pas réveillée de son obscurité. Elle n'est pas réveillée de sa stupeur. Et je dis qu'à la fois, c'est la profondeur de son amour pour le Christ mêlée à son incrédulité. Sa pensée qu'il n'est pas ressuscité. Quelle situation! En tout cas, elle cherchait Jésus, et comme Jésus n'est pas dans le tombeau, ça lui importe peu qu'il y ait des anges. Et elle dit tout simplement, parce qu'on a levé mon sauveur, et je ne sais pas où on l'a mis. Les anges parlent avec une grande sympathie et une grande compassion en lui posant cette seule question, femme. Et il faut savoir, les dames ici, que dans l'Antiquité, dans cette culture juive, adresser une femme avec le mot femme, c'est la courtoisie et c'est le respect. C'est comme si je disais ma dame. Femme, ma dame. Sauf que femme est plus intime et personnelle que madame, qui est un peu formelle en français. Donc, ils disent, femme, pourquoi pleures-tu? Et il y a une affection, mais aussi une note d'étonnement. Pour ces anges, pour qui la résurrection de Jésus est une évidence, le monde angélique est dans la jubilation. Il est difficile à comprendre comment elle peut ne pas le savoir. Comment est-ce que nous qui sommes dans la jubilation, comment est-ce que nous pouvons comprendre cette femme dans le deuil complet? Et donc, il y a une note d'étonnement. Pourquoi pleures-tu? En ce moment, nous dit le verset 14, en donnant cette réponse, le texte nous dit « Elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. » Qu'est-ce qui l'a fait retourner? Est-ce qu'elle a entendu le bruit sourd d'un pas derrière? Est-ce qu'elle a aperçu du coin de l'œil une ombre d'une personne qui s'approchait? Est-ce que les anges on fait un mouvement avec la tête ou les yeux qu'il a averti qu'il y avait quelqu'un? Jean ne nous dit pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose et elle se retourne. Elle est face à face, première personne humaine à être face à face avec le Christ ressuscité. C'est Marie. C'est pas le chef des apôtres. C'est pas un homme. C'est une femme. C'est pas n'importe quelle femme. C'est la femme la plus nécessiteuse de lui, et c'est pour ça qu'il apparaît à elle la première. C'est elle qui est catastrophée. C'est elle qui est déchirée. Et c'est pour ça que Christ vient à elle en premier. Elle pense que c'est le jardinier. On a essayé d'expliquer ça les commentateurs par beaucoup de combines. Elle avait des larmes dans les yeux, elle ne voyait pas bien, il faisait encore sombre. À mon avis, tout ça, c'est n'importe quoi. Il faut comprendre que ça tient au fait que Jésus est dans une forme qui est différente. Je vous donne juste deux exemples. Plus tard dans la journée, il va apparaître à deux disciples qui vont sur la route d'Emmaüs. Et la Bible nous dit, « Pendant qu'ils parlaient, les deux, et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Reconnaître le Christ dans le même corps, parce qu'il leur montre les trous. Mais le reconnaître, il y a quelque chose de mystérieux, et l'homme mortel n'a pas le contrôle sur sa perception du Christ ressuscité. Ou bien, quelques jours plus tard, les disciples sont en train de faire la pêche, et Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher, ils vont aller. Le matin venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et même quand ils arrivaient au rivage, ils n'étaient pas sûrs. Donc, il y a quelque chose de mystérieux, et le Seigneur doit engendrer cette perception, même si son corps est à la fois le même et changé. Et ça, c'est la clé de la résurrection. Il a le même corps, c'est ce même corps qui n'est plus dans le tombeau qu'il a, mais ce corps est transformé, immortel, incorrompu, puissant. Jésus pose deux questions à Marie. Et c'est, nous arrivons au, vraiment au point culminant de cette prédication. Au verset 15, nous lisons, Jésus lui dit, et la première chose, c'est la même question que les anges. Femme, pourquoi pleures-tu? Et la deuxième question, qui cherches-tu? Avec cette deuxième question, il pousse la sympathie, la compassion et la compréhension beaucoup plus loin que les anges. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Il entre dans son monde complètement. Et Marie le comprend ainsi, parce qu'elle ne répond pas comme aux anges, un peu une réponse vite et elle se retourne. Mais elle dit au jardinier ceci, « Monsieur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Je me demande si dans les jours ou les semaines après, ces deux questions n'ont pas revêtu un sens bien plus profond pour Marie. Sur le coup, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Mais après, sachant maintenant que c'était Jésus ressuscité, femme, pourquoi pleures-tu? Un doux reproche par rapport à son incrédulité. Et qui cherches-tu? Quelle sorte de Christ cherches-tu? Je pense qu'il y a, malgré toute sa dévotion, chez Marie, une idée du Christ qui est beaucoup trop petite. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et le Seigneur doit commencer à lui montrer quelque chose de sa grandeur. La réponse de Marie à ces questions, on l'a vu, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Pourtant, c'est lui qui est devant elle. Et puis, il y a ce mot, un seul mot, qui change la vie de Marie, qui fait retentir les carillons de Pâques dans son cœur, qui l'amène dans un instant du deuil à la jubilation. Et c'est un peu comme le avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ de notre histoire. Elle entend Jésus dire « Mariam ». Car il utilise le mot araméen, son dialecte à elle de la Galilée, qui est l'équivalent de Maria ou de Marie en grec. Mais il emprunte la manière dont il lui parlait toujours, Mariam. Et tout le bonheur qui est attaché à la résurrection, au fait que le Christ a vaincu la mort, a vaincu nos péchés, nous a amenés maintenant dans une vie immortelle, hors de la portée du mal. Tout cela se trouve dans ce mot, Marie, c'est moi, le ressuscité. Sans doute, il y a quelque chose dans le ton de la voix qui avertit Marie tout de suite que c'est par le jardinier. La manière dont il dit, Maria. C'est la voix du berger qui appelle ses brebis par nom, n'est-ce pas? Et qui les amène à lui-même. Et on voit que tout est changé par la réponse de Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, c'est-à-dire en araméen, « Rabouni, Rabouni ». C'est un mot que Jean doit traduire. Il dit ce qui veut dire « maître » parce qu'il ne peut pas, bien qu'écrivant son évangile en grec, il ne peut pas mettre ce mot en grec. Parce que le mot « rabouni » signifie plus que « rabbin ». C'est un diminutif. C'est comme quand j'appelle ma fille Michel Michou. N'est-ce pas? Rabouni. Vous voyez, tu es là, c'est toi. Et toute sa proximité, toute sa relation avec lui, elle sait qu'elle a retrouvé, que ce n'était pas perdu. Je t'ai pas perdu, c'est plutôt toi qui m'as trouvé. Mais tu m'as trouvé, toi, ressuscité. C'est un cri de joie, un cri qui marque la fin de deuil, qui marque la fin de tous les maux de ce monde. Parce que si Christ est ressuscité pour nous, pour prendre notre humanité, le premier lui, et prendre possession du ciel, alors elle sait que rien dans ce bas monde ne peut plus lui mettre dans le même deuil. Alors, Jésus doit tout de suite lui donner une petite correction. Parce qu'elle est tombée à ses genoux, à ses pieds, elle s'accroche à lui. Et Jésus dit, dans notre texte, « ne me touche pas ». Mais ce mot en grec ne signifie pas ça, ne signifie même pas un commandement de ne pas faire quelque chose, mais c'est un commandement de cesser de faire quelque chose que tu es déjà en train de faire. C'est pourquoi d'autres versions traduisent « cesse de t'accrocher à moi ». Et voilà la raison. « Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Les gens ont essayé de comprendre pourquoi Marie ne peut pas s'accrocher à Jésus. Et encore beaucoup d'explications différentes. Mais il me semble que ce n'est pas aussi difficile à cela de comprendre si nous revenons à vendredi soir. Nous sommes dimanche. Mais vendredi soir, pendant toute la soirée, Jésus a enseigné ses disciples. Et le point principal de son enseignement était qu'il était venu du Père, il allait maintenant retourner vers le Père, et seulement ensuite, après avoir préparé une place pour nous, il allait revenir nous chercher. Je vous donne juste un exemple. Jésus dit, ce soir-là, vendredi soir, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Et je vous prendrai avec moi. Encore, il dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Voilà les deux mouvements qui doivent se passer pour que nous soyons sauvés. Je m'en vais vers le Père, je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et puis, enfin, Jean 16. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Vous voyez combien de fois il en parle vendredi soir. Et maintenant, Marie le voit et elle pense que tout cela est achevé. Que Jésus est mort, allé au Père, et maintenant le salut est là. Sa résurrection signifie que tout est fini, il est revenu les chercher. Mais Jésus dit, non, ne t'accroche pas à moi, je ne suis pas encore monté au Père. Cette partie n'est pas achevée, je ne l'ai pas fait. Je vous ai parlé en long et en large de ce que la prochaine étape, c'est que je vous quitte et j'aille au Père. Je suis en train de le faire. C'est pour ça qu'il met dans le présent, ne t'accroche pas, cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté au Père. Va dire à mes frères que je monte, je suis en train de monter. C'est seulement le premier pas du tombeau, mais je dois achever. Donc, c'est pas la fin du salut, c'est pas l'achèvement. Donc, ne t'accroche pas à moi. J'ai encore à monter au Père. Et comme ça, Marie doit comprendre, parce que dans sa tête, il y a l'idée d'un achèvement. De quelque chose qui est maintenant, ah, On y arrivait. Mais je dois dire, on n'est pas encore arrivé. Je dois encore monter au Père. Je dois prendre possession dans l'humanité du paradis pour vous. Donc Jésus, et je termine juste en disant qu'il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, va vers mes frères. Savez-vous que c'est la première fois que Jésus appelle les disciples mes frères? Ce qui nous montre que sa résurrection ne met pas plus de distance entre Jésus et eux, mais ramène en plus d'intimité. Maintenant, il y a quelque chose d'accompli qui n'avait pas été accompli. La soudure est plus ferme, plus proche. Le lien est plus serré maintenant. Va dire à mes frères que je vais vers mon Père et leur Père, mon Dieu et leur Dieu. C'est-à-dire, tout ce que je racontais vendredi soir, dis-leur que ça y est, je suis capable de le faire maintenant. Impossible de monter vers le Père sans mourir, mourir obéissant jusqu'au bout et ressusciter. Mais maintenant, je peux le faire et je le fais. Dis-leur cette bonne nouvelle, que je vais au Père, ce qui signifie que vous allez au Père. Parce que nous devons comprendre, les amis, que Jésus, tout ce que nous le voyons dans sa résurrection, nous sommes en train de voir notre salut, ce que nous aurons. Dis-leur que moi, je m'en vais au Père. Parce que ça veut dire que après moi, le premier, je les amène de la même manière. Ça veut dire tout simplement, c'est mon mot de fin, que l'expérience de Marie sera en quelque sorte la nôtre un jour. Et je crois vraiment que Dieu l'a rapporté à nous dans l'Écriture parce que cet événement, la première à voir le Seigneur ressuscité, est presque symbolique pour nous. Un jour, vous aussi, vous allez vous retrouver subitement, de manière inattendue, comme Marie, devant le Christ ressuscité. Et il va vous appeler par nom aussi, par nom. Il va vous dire votre nom. Et vous allez répondre un peu comme Marie quand elle a dit « Rabboni ». Sauf une différence. Cette fois, il ne dira pas « Cessez-vous de vous accrocher à moi ». Il te dira « Accroche-toi bien à moi ». Parce que dans la puissance de ma résurrection, nous montons auprès de mon Dieu et votre Dieu, mon Père et votre Père. Quelle expérience pour Marie. Quelle expérience pour nous. Quel Sauveur ressuscité.
Avant de prendre un temps de prière commune, on pourra répondre à...